Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet.
Baptiste Antoine.
Guillaume Buffet.
Bonjour, bonsoir. Il y a un peu plus de 20 ans, une jeune femme au dos nu couverte de coccinelles apparaissait sur la pochette d'un premier disque qui allait être récompensé par une victoire de la musique. Sur la pointe des antennes, elle faisait alors une entrée remarquée dans le petit monde de l'électro. 20 ans après, la chanteuse, autrice, compositrice, interprète continue d'explorer la magie des sons dans une odyssée électronique végétale, minérale, sensorielle, en mue permanente, passant de la coccinelle au manchot, du phénix au tigre ailé, et c'est sur le dos de ce félin aux yeux de diamant qu'elle nous embarque pour une aventure astrale entre soleil et étoiles du Nord. Polaris, le nouvel album d'Émilie Simon, est disponible chez Végétal et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Émilie Simon.
Bonjour.
Merci d'être là. Il n'y a personne comme toi. C'est une phrase que vous vous dites souvent.
Non, pas vraiment. Que je dis souvent en général aux gens.
Vous, oui, à vous ou à vous-même peut-être. Parce qu'il n'y a personne comme toi, c'est peut-être aussi un moyen de se mettre en confiance soi-même.
Oui, c'est vrai. Il n'y a personne comme... On est tous uniques en fait. Donc c'est une bonne phrase à se dire et puis à dire aux gens qu'on aime aussi.
Une artiste, c'est forcément quelqu'un de différent.
Non, on est tous différents. Après, l'artiste, c'est celui qui va aller utiliser ses émotions et qui est peut-être utiliser son hypersensibilité pour exprimer des choses, connecter avec d'autres personnes et essayer de transcender certaines choses à travers la création.
Et trouver aussi sa singularité. Il n'y a personne comme toi. C'est peut-être aussi ça que ça veut dire. Il y a plein de façons, en fait, d'appréhender cette phrase, ces quelques mots.
Ouais, mais pour moi, c'est chaque individu est unique et a ses propres trésors. Et il y a l'artiste pas plus que les autres finalement. Mais c'est vrai que l'artiste a une façon d'exprimer les choses qui va aller peut-être connecter avec les gens.
Mais si chacun a ses propres trésors, chacun ne sait pas forcément justement où ils sont cachés, parce qu'ils ne sont pas forcément apparents, ces trésors. Comment est-ce que vous avez senti que vous aviez justement ce trésor en vous, trésor d'émotion, d'émotivité, trésor de sens de la musique et du partage artistique?
Moi, j'ai très très jeune, je savais ce que je voulais faire. J'écrivais, je chantais, je savais que c'était ma vie, la musique, l'art en général, hein, parce que j'aime toutes les formes d'art. Mais pour moi, c'est vrai que c'est la musique qui a été mon média principal. Et ensuite, toute ma vie, ça a été d'explorer, d'améliorer, de parfois m'éloigner de mes bases pour me mettre dans des situations parfois un petit peu inconfortables, hein,
oui, pour sortir de sa zone de confort. Ça permet justement de progresser et de se découvrir soi-même.
Oui, bah c'est sûr. Après, avec le recul, même en restant dans sa zone de confort, il y a beaucoup d'exploration à faire, hein. Mais moi, je suis une aventurière, un petit peu.
Oui, ça se sent effectivement à travers ce nouvel album. Alors, on a entendu donc ce titre Soleil. Pour commencer, c'est avec lui qu'on entre dans l'album, avec des paroles pleines de lumière, d'espoir, des paroles pour redonner confiance, même si on sent aussi, hein, dans vos mots la tristesse passée, sous-jacente, un peu l'ombre sur le front, comme vous le dites à un certain moment. Quand on entend ce démarrage, on se dit que ce disque, ça va être une sorte de disque de passage du jour à la nuit, ou plutôt de la nuit au jour, de la lumière, de la confiance retrouvée. Est-ce que ce disque, c'est une forme d'album de la résilience, Émilie Simon ?
Oui, ça, en tout cas, c'est un trajet personnel qui est le mien, que j'ai transposé sur ces morceaux, bien sûr, parce qu'ils ont... Il faut dire que ce disque, ça fait 10 ans que je travaille dessus, donc il m'a suivi à travers plein de choses. Et ça m'a permis aussi de créer une œuvre qui soit, je pense, plus profonde, hein, que quand on écrit sur 2 ans, par exemple, de vie. Quand on laisse comme ça la possibilité aux morceaux d'arriver ou d'évoluer ou voilà, de se modifier sur une période de 10 ans comme ça, mais il y a des choses intéressantes qui se passent.
Mais 10 ans, vous aviez déjà cette idée-là en tête ou bien
non.
Tout simplement, vous n'êtes pas mis du tout la pression pour pouvoir réaliser cet album?
Je me suis mis la pression, simplement. Chaque chose a son timing. Et on croit parfois qu'on maîtrise tout, mais ce n'est pas vrai. On maîtrise certaines choses, mais on n'a pas le contrôle total. Et je pense que c'est vrai, surtout quand il s'agit de ce genre de démarche. Quand on se met en tête une sorte de... Comment dire? Un objectif. Qui était assez haut pour moi, pour Polaris. Il y a un temps de gestation, il y a un temps aussi d'alignement presque des planètes, des étoiles, qui est hors de sa propre volonté. Donc pour moi, ça a pris 10 ans. Ça aurait pu prendre 6 mois, hein, pour un autre projet, mais pour celui-là, ça a pris 10 ans.
J'attends chaque soir en silence.
Le soleil dans notre univers. Un soir, j'ai une idée. Je trouve une parade afin de mettre fin à cette mascarade. Quand je sens m'envahir ces spectres redoutables, je rassemble mes forces et je frappe sur la table. Je demande aux esprits qui veulent bien m'entendre de les faire disparaître ou de venir me prendre. Et pour me protéger, dans un acte de détresse, je bâtis peu à peu en moi une forteresse.
Forteresse, nouvel extrait de Polaris, le nouvel album de notre invité Émilie Simon dans VMDN sur RFI. Un album, et si on affine un peu la focale, chacun des titres qui composent cet album, c'est d'abord un travail d'introspection, Émilie Simon.
Ah oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. L'écriture mélodique, l'écriture poétique, c'est un travail d'introspection. C'est aussi un travail de puzzle, un jeu de pistes.
Avec soi-même.
Ouais, avec soi-même. C'est assez fascinant. C'est un peu la chasse au trésor.
Mais ça demande une mise en condition psychologiquement, quand justement on a plein d'idées en tête. Parce que en 10 ans, vous avez quand même fait énormément de choses extrêmement ouais. différentes, même si on peut quand même reconstituer un cheminement assez logique, hein, mm-hmm. finalement. On a le temps, quand on mène une carrière justement comme ça, de s'arrêter, de prendre son temps, sans se mettre justement de trop de pression et de dire « je rentre en moi-même ». Pour ensuite pouvoir donner quelque chose à l'autre.
Mais je pense que c'est indispensable. Après, on est de plus en plus dans une société qui a du mal à autoriser ça parce qu'on est dans de l'immédiat. Donc c'est difficile quand on est dans l'immédiat d'aller dans la profondeur, mais c'est quand même important, je pense, pour la qualité, hein, d'avoir le temps d'approfondir les sujets un petit peu.
Alors, c'est votre premier véritable album depuis 10 ans. 10 ans, vous le disiez, hein. 10 ans, c'est court ou c'est long
Les deux. Quand j'y pense maintenant, ça me paraît être passé en une seconde. Et pourtant, quand j'y étais... Ce qui est très difficile quand on écrit comme ça une œuvre sur 10 ans, et qu'on sait, hein, parce que moi, j'ai jamais douté sur le fait que ce disque allait sortir. Et c'était juste que c'était une très longue maturation. C'est difficile de conserver un momentum. Et le momentum, c'est important dans l'art, dans tout projet. Voilà, créer une effervescence, utiliser cette énergie, faire grandir, voilà, créer un momentum. Mais un momentum sur 10 ans, ça n'existe pas. Donc ça, c'est un test de foi, parfois. C'est-à-dire qu'on va avoir un momentum sur 3-4 mois, on va rentrer en studio, on va avoir des résultats, et puis après, ça va retomber. C'est des vagues comme ça. Et puis, ça vient aussi, bien sûr, ça fait partie de la maturation des morceaux.
Alors, la question qu'on peut se poser, c'est évidemment, à quel moment précisément décidez-vous de poser le point final, de dire c'est bon, là ça y est, le produit, le projet, le mm-hmm. projet, le produit, c'est pas très joli, le projet est mûr, mm-hmm. c'est bon, il est à point, on arrête là.
On sait pas vraiment. En fait, il y a un moment où la vie nous montre que ça y est, c'est maintenant. Ça va être par exemple une échéance qui arrive, une date de sortie, une sorte, voilà, on parlait de momentum, un momentum qui arrive, qui arrive finalement à nous montrer, la vie nous pointe sur le fait que ça arrive à la fin, mais cette expérience-là m'a appris que, bien sûr, on peut planifier et décider de beaucoup de choses, mais dans la création, il y a comme une espèce de timing un peu sacré, qui est un petit peu au-delà de notre volonté et tout, et que le secret de tout ça, c'est justement d'être à l'écoute et d'aller dans le sens de la vague.
Everything's gonna turn out beautifully. And when the time will come, you'll know which way you are supposed to go. Don't worry, Lily, don't you worry. Take a deep breath and you will see. Everything will seem so easy.
Lily Switch, c'est le titre qui est littéralement au cœur de ce nouvel album, Émilie Simon. Piste 8 sur 14, ce qui permet au passage de relier donc ce nouvel album Polaris à Phoenix, votre court-métrage qu'on a pu découvrir à l'automne dernier, accompagné d'un mini-album avec ce personnage de Lily. Est-ce que Polaris, c'est un peu la suite de Phoenix ?
Oui, c'est ça. Lily Mercier, après être revenue du pays des vampires... Puisqu'elle s'est réveillée un matin vampire et amnésique. Et un jour, au bout d'un demi-siècle, elle tombe sur la photo de quelqu'un dans le journal qui va lui ramener toute la mémoire. Elle va pouvoir se venger et revenir à la vie. Et donc maintenant, Lily, qui est revenue à la vie, mais qui a quand même un peu perdu le nord, va aller faire un voyage sur Polaris, l'étoile du Nord.
Voilà, donc pour essayer de retrouver le nord précisément. Ouais. Comment est-ce qu'il est né ce personnage de Lily Mercier ?
Il est né pour Polaris à la base, et comme je vous
donc
disais,
vous aviez déjà ça.
Oui, ça fait
dans
10
la
ans.
Longue vue.
Oui, c'est ça. Donc elle est là depuis le début sur Polaris avec le tigre ailé. Elle est née à cette occasion-là. Et puis quand Phoenix est arrivé un peu plus tard, vers 2020 à peu près, Lily Mercier refait apparition cette fois-ci sur l'épisode Phoenix.
Oui, et Emily, elle est surnommée Lily dans la vie.
C'est une projection, c'est une partie de moi. Elle va dans les dimensions, je ne peux pas accéder.
Oui, bon, c'est un personnage, justement. Elle a plus de liberté que vous. Est-ce que vous avez les mêmes démons qu'elle en vous ? Est-ce que Simon rime avec démon ?
Parfois, comme tout le monde. J'ai mes propres démons, hein. C'est sûr. C'est un petit peu la beauté de l'écriture après, c'est qu'on les apprivoise à travers... certaines mélodies.
Donc il y a la musique, il y a aussi des histoires. En fait, vous êtes aussi une conteuse d'histoires, oui. Émilie Simon, ça c'est pas nouveau. Alors cet album, justement, 14 titres, 14 chapitres, ce sont des histoires à suivre, ce sont 14 nouvelles indépendantes auxquelles chaque auditeur peut donner un sens.
Ah, si on peut écouter Polaris du début à la fin, et on aura un sens narratif avec un cheminement. Ça ouvre par Soleil, mais ça n'est qu'une ouverture parce qu'on va commencer par justement Lily qui exprime ce mal-être avec ses propres démons intérieurs et qui dit qu'elle a construit en elle une forteresse et qu'elle demande de l'aide. Et c'est à ce moment-là que le tigre ailé va débarquer et l'amener sur Polaris. Donc avec mon tigre ailé, Tiger. Et Polaris est une étoile recouverte de cristaux. Donc on va se retrouver avec des morceaux comme Crystals, Celestial. On va se retrouver un petit peu dans le cosmos. Jusqu'à ce qu'il soit temps pour que Lily rentre sur Terre.
Voilà, et donc pour la seconder dans ce long voyage, elle a donc un compagnon, un tigre.
Wild and strong and hungry as hell. Here
Tiger, Emily Simon, extraite de son nouvel album Polaris sur RFI, dont vous m'en direz des nouvelles. Alors il faut aller voir le clip, hein, qui a été réalisé d'ailleurs par un studio qui développe des contenus pour le jeu vidéo 3D. C'est vrai qu'on est un petit peu dans cette atmosphère-là, hein, Emily Simon. L'identité visuelle, c'est aussi important que la musique ?
Ouais, c'est important. C'est très important. Et en plus, c'est quelque chose qui me plaît énormément parce que c'est un petit peu la première chose que les gens voient, parfois même avant d'entendre la musique. Ça va être la pochette de l'album, ça va être une affiche de concert. Donc c'est important que ces images-là, elles viennent être une bonne porte d'entrée pour pouvoir accéder à l'univers. Et ça fait partie d'un tout. La musique, c'est une facette.
Ouais, un univers minéral, un univers qui scintille avec des diamants, avec des cristaux. C'est comme ça justement que l'on peut comprendre la pochette, les étoiles, on va en parler dans un instant. Mais le tigre, arrêtons un petit instant sur le tigre. Comment vous est venue l'image de ce tigre ?
Je ne sais pas, c'est arrivé. Alors oui, c'est la première chose qui est arrivée, c'était ce tigre.
Il y a beaucoup d'animaux d'ailleurs dans votre parcours musical.
Oui, il y en avait encore plus en Polaris. Hein. J'ai épuré parce qu'elle faisait d'autres rencontres. Il y avait beaucoup plus de choses, mais j'ai épuré parce que c'était très, très, très... Voilà, il y avait beaucoup de monde.
Alors pourquoi le tigre ?
Le tigre, parce que c'est le premier qui est venu. Je ne sais pas pourquoi, c'était comme une obsession. C'était ce tigre qui venait, le tigre ailé, elle qui voyageait à dos de tigre. Et Tiger a été le premier morceau écrit pour Polaris. Et bon, les versions ont évolué au fur et à mesure du temps. Mais c'est le premier morceau que j'ai écrit pour Polaris. Et par la suite, je me suis renseignée parce qu'évidemment, j'étais un petit peu curieuse de ça. Et j'ai vu que c'était très... Je sais qu'il y a une déesse indienne qui est à dos de tigre aussi. Il y a beaucoup de symbolique et de signification sur ce... Alors, un jour, on m'a demandé est-ce que ça aurait pu être un autre animal. Et je crois pas. C'était le tigre. Alors, pourquoi j'ai pas une fascination pour les tigres depuis enfant, hein ? C'est arrivé à ce moment-là. Peut-être que Lily Mercier avait besoin du tigre, de cette force-là, pour l'impulsion, voilà, pour aller sur Polaris.
Alors j'aurais pu vous demander de nous décrire au micro d'RFI l'image du tigre, sauf que vous le faites dans une autre chanson de l'album, Mon tigre ailé, en français cette fois-ci, le plus simple, c'était donc d'écouter.
Ses yeux d'émeraude et son rugissement, voilà ce qui décrit mon félin de diamant. Il y a ses ailes dont chaque battement fait trembler la terre et le ciel, l'azur, le firmament. Et nous traversons le cosmos dans un ciel étoilé, moi-même et mon tigre féroce, mon tigre.
Tigre, ailé entre Mon tigre ailé, juste après avoir écouté Tiger, deux extraits donc de Polaris, le nouvel album de notre invité Émilie Simon sur RFI, avec donc des titres plutôt parfois écrit en français, parfois écrit en anglais. Donc sur le titre, c'est vraiment moitié-moitié. Il y a une raison particulière. Qu'est-ce qui vous fait opter pour l'une ou l'autre langue ?
Alors j'ai grandi avec ces deux visions de la mélodie. J'ai grandi en écoutant majoritairement de la musique anglo-saxonne. Donc j'ai intégré ces deux langues très jeune. Et puis après, je suis partie aussi habiter aux États-Unis. Donc j'ai encore plus intégré le côté anglophone. Les paroles sont souvent très liées avec le type de mélodie que j'écris.
Le point de début, le point de départ, c'est la mélodie. Avant
en
que
général,
les mots.
Oui, mais ça dépend. Parce que la langue française est un peu plus littéraire pour moi, dans la façon dont je l'utilise. Et donc, parfois, ça va plus partir d'un texte en français, alors que, pour moi, on va dire, je ne sais pas pourquoi, j'ai le français un peu plus cérébral, même si, bon, ça reste d'intuitif, aussi dans le ventre, mais c'est quand même un peu plus cérébral, alors que l'anglais est peut-être un peu plus... intuitif, peut-être un peu plus insouciant, quelque chose comme ça.
Et la musique, c'est cérébral ou intuitif ?
C'est intuitif, complètement. Après, cérébral, ça va être plus au niveau de quand on commence à rentrer dans les arrangements, les choses comme ça, où on commence à réfléchir aux choses. Mais non, les points de départ sont toujours très intuitifs.
Parce que vous avez étudié la musique, hein. Vous avez fait un DEA en musicologie, avez fait des stages à l'IRCAM. Votre musique est aussi, même si elle est intuitive à la base, une musique savante, Émilie Simon.
Non, j'ai étudié, mais l'impulsion créative, elle n'est pas dans la tête. Et le reste, c'est au service de cette impulsion créative.
Donc l'architecture que vous pouvez mettre en place, mettre en œuvre.
Voilà, j'ai les techniques pour servir mon idée. Mais au départ, moi, je suis, même si je suis, formée dans quelque chose de très cérébral, effectivement, c'est pas du tout ma façon de composer. Et c'est pas comme ça que je vois la création. Et pour moi, c'est un dépassement de soi. On est dans le sublime, on est dans quelque chose de même métaphysique. Et tout le reste, ça vient, apporter. La technique, on en a besoin pour quelque part construire autour. Mais c'est toujours pour servir cette colonne vertébrale qui est presque de l'impalpable pour moi.
Et l'intelligence artificielle, dont on parle de plus en plus, ça vous fait peur ou ça vous enthousiasme ?
Je trouve ça fascinant, ça c'est incroyable. Ça me fait pas peur. Après, je comprends pas forcément encore, comme beaucoup de gens, les tenants, les aboutissants exactement. On est tellement au début de quelque chose que j'ai du mal à avoir la vision claire sur ce genre de sujet encore.
Mais sur le principe, vous n'avez pas de problème particulier. Pourquoi ne pas l'utiliser ?
Non, pour moi, ça ne fait que monter le niveau. C'est-à-dire qu'au lieu de passer une semaine à faire quelque chose, maintenant on va passer une heure, mais ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter là. On va pouvoir aller encore plus loin dans une semaine. C'est un peu ma perception du truc.
Est-ce qu'une compositrice, pour vous, Émilie Simon, c'est une sorte de magicienne, une magicienne des sensations, ou est-ce que c'est plus du domaine de la cuisine, de la gastronomie ?
Ben, c'est les deux. C'est des potions magiques. Il y a un petit peu... de soupe.
Oui, mais il y a une formule magique alors justement pour fabriquer la soupe.
Non,
il n'y a pas de formule.
Il n'y a pas de formule.
Bon, percer les mystères du son, ça fait vraiment partie aussi de votre travail expérimental. Quoi. Vous êtes une exploratrice et une expérimentatrice. Vous tâtonnez beaucoup quand vous composez ?
Je suis, comment ça s'appelle ? Je suis très... j'ai beaucoup de côtés qui viennent s'opposer en moi.
Oui.
J'aime expérimenter et je suis en même temps extrêmement impatiente. Donc, j'aime pas passer trop de temps sur les choses, mais en même temps, j'aime aussi avoir le temps de rentrer dans les sujets. Donc, c'est un conflit intérieur qui vient toujours motiver toutes les compositions.
Oui, conflit aussi entre le vintage et le futurisme, parce qu'on m'a dit que vous aimez bien justement travailler sur les vieilles machines. Et pourtant, quand on regarde votre univers, on a plutôt l'impression que vous regardez plutôt clairement l'avenir.
Oui, mais c'est une boucle. Le temps, c'est une boucle. Et puis en plus... Je sais pas, c'est comme quand on regarde des films comme Blade Runner, c'est-à-dire qu'on peut imaginer dans un monde dans le futur que finalement on va recycler énormément. Donc on va se retrouver dans un monde futuriste qui fait beaucoup de références à toutes les époques passées. Et pour moi ça c'est fascinant parce que c'est très très riche tout ce qu'on a dans la musique baroque, quand tous les styles musicaux, et alors j'en passe depuis qu'il y a toute la musique informatique. Et tout ça, c'est au service, voilà, pourquoi ne pas l'utiliser et de faire des références si on veut, ou de complètement détourner les choses.
Alors justement, à propos de références, de quel livre, de quel film, de quelle bande dessinée peut-être, de quel type de peintre vous êtes-vous nourri?
Ah, pour Polaris, il y a un film qui me venait beaucoup en tête, c'était ce film quand j'étais enfant qui s'appelait « L'histoire sans fin ». Où elle voyait le petit garçon voyager à dos de dragon, de bonne chance. Et il avait comme ça aussi toute une espèce de quête personnelle à travers une histoire avec des personnages un petit peu magiques. Et c'était un film que j'adorais enfant et que j'ai revu récemment, que j'aime toujours, que j'adore. Toute cette époque, années 80, parce que c'était mon enfance, tout simplement, hein, les premiers souvenirs de films, de musique, c'était cette époque-là. Ouais, Blade Runner, peut-être aussi, cette espèce de... Bon, j'adore.
Il me semble que vous êtes mon étoile du Nord.
North Star, l'étoile du Nord, l'étoile polaire de notre invité Émilie Simon, extrait de son nouvel album Polaris et des étoiles. Il y en a dans tout le ciel de votre carrière, quasiment. Un premier album, Graines d'étoiles, au pluriel. Dernier album, donc Polaris. Entre les deux, il y a eu Les étoiles de Paris sur l'album Muge, j'en oublie sans doute. Quelle est la genèse de cette fascination pour les astres, Émilie Simon?
Je ne sais pas. Ça a toujours été... je ne sais pas, l'endroit, le lieu, la direction où j'ai regardé toute jeune.
Vous aviez des jumelles ou un télescope comme ça?
Non, je n'ai jamais eu, mais je pense que j'aurais beaucoup aimé. J'ai toujours été fascinée par le cosmos et à quel point on ne sait pas ce qui se passe là-haut. Et en même temps, c'est notre... on vient de là, quoi. C'est notre maison. Et ouais, les étoiles, le cosmos, et toute la beauté aussi de toutes ces images, ça m'a toujours fascinée.
Et l'étoile sur cet album, c'est donc l'étoile du Nord. Alors là, on peut s'étonner parce que vous êtes natif de Montpellier, Émilie Simon. L'appel du Nord, c'est l'appel de la boussole, tout simplement.
C'est, oui, c'est ça.
Quand on a perdu le Nord, il faut le retrouver, donc on va vers le Nord.
C'est ça, c'est dans ce contexte, c'est ça. C'est l'étoile que Lily, dont elle a besoin pour retrouver sa direction. Donc c'est l'étoile du Nord qu'on regarde.
Bon, et puis quand on regarde un petit peu dans votre carrière, vous aviez aussi une attirance pour une grande artiste du Grand Nord, enfin presque, Björk.
Comment ça, une attirance?
Björk, une attirance musicale, évidemment. Voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup compté, je crois, effectivement, dans votre carrière musicale.
Bah moi, j'ai écouté plutôt, en grandissant, Kate Bush, Joni Mitchell. Ça, c'est mon enfance. Effectivement, Björk, là, j'étais un peu plus âgée. Je devais déjà être adolescente. Et c'est vrai que c'est une grande dame, et c'est une dame qui a été peut-être aussi une des premières, des pionnières à utiliser la musique électronique dans la pop. Voilà, ça se faisait pas beaucoup. Et là, aujourd'hui, évidemment, plusieurs années plus tard, c'est vraiment quelque chose qui est très, très, très répandu, parce qu'en plus, au niveau des techniques, l'informatique musicale a tellement évolué, donne tellement d'indépendance et de possibilités à des artistes de vraiment développer leur propre son, de travailler avec des samples, tout ça. Et d'ailleurs, je suis toujours fascinée de voir à quel point il y a de plus en plus de femmes qui font leur production et qui développent leur propre univers, et ça, j'adore.
Alors Polaris, c'est donc l'étoile du Nord. L'Antarctique, vous aviez déjà donné avec la bande originale du film de Luc Jacquet, La Marche de l'Empereur. Pour vous, il y a eu clairement un avant et un après.
Après
la musique de film, oui.
De La Marche de l'Empereur, c'est vrai que c'était un énorme succès. Donc c'était super de voir ça. C'était quelque chose qui a étonné, qui nous a tous étonnés, parce qu'on était, c'était le premier film pour lequel je travaillais. C'était le premier documentaire pour Bonne Pioche, le premier film de Luc Jacquet. Et c'est allé très très loin comme ça. Donc c'était une aventure absolument sublime.
Alors quand Luc Jacquet a fait appel à vous, vous étiez, je crois, en train d'étudier la musicalité de l'eau. Et notamment de la glace. L'eau, c'est un instrument de musique comme un autre?
Oui, on a utilisé l'eau sur scène à l'époque de Végétal et effectivement La Marche de l'Empereur. On avait une cuve d'eau comme ça, et puis on samplait des boucles. Voilà, il y avait Cyril Hernandez qui était le percussionniste qui venait travailler cette matière. Donc on utilisait l'eau comme une matière. Et c'est vrai qu'à l'époque, quand Yves Darondeau et Luc Jacquet m'ont contacté, j'étais en train de travailler sur ce morceau qui s'appelait Ice Girl. Parce que j'étais dans les matières, donc j'étais dans la pierre, avec Végétal, tout ça. Puis il y avait la glace. Et j'avais passé un petit peu de temps sur la glace. Donc au moment où ils m'ont contacté, c'était fou, parce que c'était comme une sorte de synchronicité, quoi.
Ouais, donc il y a maintenant le cristal et le diamant de Polaris. Merci beaucoup, Émilie Simon.
Merci.
L'album disponible chez Végétal, vous serez en concert le 22 avril au Trianon à Paris, le 26 au Silo à Marseille et le 7 mai à New York au Cutting Room.
Kidente ke barigatie Musa.
Mounio, Manu Sissoko dans la playlist RFI de ce mois d'avril. Dolo, le Dogon du siècle. C'est une exposition à voir en ce moment à Paris à la Galerie Christophe Person dans le Marais. Une exposition hommage à Ami Guéré Dolo, un sculpteur d'origine malienne décédé en août 2022. Dolo, c'est de la céramique, de la peinture, mais aussi et surtout de la sculpture sur bois. Reportage de Mathilde Cariou sur fond de blues d'Ongo.
La sculpture de Dolo, c'est avant tout l'histoire d'une transgression, parce que lui est fils d'agriculteur et que dans la société Dogon, au Mali, la sculpture est réservée aux forgerons.
Petit, il allait chez Forgeron avec son père, qui était un homme déjà très âgé. Le meilleur ami de son père, c'était le forgeron.
Luc Berthier, galeriste et ami de Dolo.
Il m'a dit qu'il avait terminé à manier le soufflet du forgeron en regardant comment il faisait. Et quand il revenait chez lui, il faisait des petites sculptures sur bois qu'il cachait sous son matelas. Et son père l'a surpris et l'a tensé vertement en lui disant « Tu ne peux pas faire ça parce que sinon tu risques d'avoir la parole contre toi et attention, ils peuvent te faire mourir. »
Dolo quitte alors le pays Dogon pour poursuivre cette carrière. Il intègre les Beaux-Arts en peinture cette fois et se met à travailler notamment sur des sacs de ciment.
Au départ, tous ces sacs de ciment sont très rigides et par la suite, grâce à une technique qu'il a mise au point, ça va devenir quelque chose de très souple au point qu'on pourrait même le froisser.
En posant l'étoile au sol, finalement, l'étoile prenait aussi toutes les aspérités en fait, qu'il y avait dans sa cour.
Christophe Person, le directeur de la galerie.
Et donc c'est la raison pour laquelle on a l'impression d'être face à ce papier qui est un peu gaufré comme ça et qui rajoute en fait une dimension encore à la couleur, puisqu'il faisait de la terre cuite et de la toile. Et en fait, sur la toile, on voit que tout est un petit peu mélangé comme ça, dans cet esprit-là.
Écolo avant l'heure avec ses sacs de ciment, mais aussi ses morceaux de bois qu'il utilise pour sa sculpture. Jamais, nous dit Luc Berthier, il n'aurait utilisé de bois vivant pour son art.
C'était des bois déjà morts, surtout pas des bois flottés, mais des bois qui étaient dans la terre, puisqu'ils sont nés de la terre, mais qui sont devenus morts. Et à ce moment-là, il pense qu'il peut les utiliser.
Car l'art de Dolo, sans être traditionnel, est très ancré dans sa mythologie. Beaucoup de symbolique et beaucoup de références à l'origine, comme ici, avec cette petite statue de bois que nous décrit Luc Berthier.
Alors, au milieu du corps, il a ce trou avec cette espèce de nombril qui sort. Et c'est comme une vulve, mais aussi avec cette verge qui pointe le sol. Dolo m'avait appris une chose, en fait, c'est que dans la statuaire traditionnelle, souvent on voit à hauteur du nombril, un nombril qui pointe le sol. C'est pour dire, j'appartiens à cette terre, c'est là ma mère.
Mmh. Malgré la transgression originelle, Dolo reste très fidèle à sa culture et ses traditions. D'ailleurs, son art, bien que longtemps interdit, est aujourd'hui très célèbre sur le continent ouest africain, s'amuse Christophe Persson.
En fait, il y a beaucoup de gens en Afrique de l'Ouest qui ont eu la chance de rencontrer Dolo. En fait, donc c'était déjà un artiste qui était énormément respecté, d'une part parce qu'il avait un petit peu été dissident justement par rapport à ce qui était autorisé dans ses castes et d'avoir osé aller à l'avant de sa volonté que d'être sculpteur. Donc ça, je pense que ça a été quelque chose qui a été très respecté en fait par toute cette communauté. Et aujourd'hui, moi je suis très ravi évidemment qu'on arrive à faire cette exposition hommage, parce que en fait ses œuvres n'avaient pas été nécessairement montrées non plus dans ce contexte un petit peu de galerie au mur blanc. Et je pense que c'est, voilà, c'est un beau travail qu'on fait pour le valoriser. Oui.
Exposition à découvrir à la galerie Christophe Persson à Paris jusqu'au 27 avril prochain.
Reportage de Mathilde Cariou pour VMDN et ce livre Dolo, le Dogon du siècle, par ses deux amis Yves Créalet et Luc Berthier, est à découvrir si vous le souhaitez aux éditions Luc Berthier, justement. Le journal en français facile, dans une poignée de secondes sur RFI, à demain, et vous m'en direz des nouvelles.
Pour nous faire partager vos bonheurs culturels et artistiques, écrivez-nous à vmdn@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux.